Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration, cette fois au cœur des technologies de Spatiopolis. Ici, la technologie, elle est partout, vraiment. Dans l'air qu'on respire presque, avec ses réseaux galactiques invisibles, et puis sur les gens eux-mêmes, avec les modifications corporelles, comment ça modèle la vie au quotidien. Aujourd'hui, on va regarder de plus près les éléments clés qu'on a trouvés dans nos sources. On va parler de l'Arcanet, ce fameux réseau galactique, du piratage aussi, forcément, des IA, des robots, des synthétiques, ces êtres un peu étranges, et puis bien sûr de la cybernétique. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça, comprendre comment ça marche, comment ça s'intègre et les questions que ça soulève. Alors, on commence par quoi? Peut-être par ce qui relie tout, l'Arcanet. C'est bien plus qu'un simple Internet, j'imagine.
C'est l'épine dorsale de tout, non? Commerce, communication, gestion des systèmes. Ah oui, absolument. C'est carrément l'infrastructure nerveuse de la galaxie. Et sa structure, elle est très parlante, je trouve. On a d'abord une couche publique, facile d'accès. Pour les infos de GNN, la météo spatiale, les trucs de base, quoi.
D'accord.
Ensuite, une couche professionnelle. Là, c'est plus sécurisé. Pour les marchés, les logistiques, les entreprises.
Logique.
Après, ça se corse. Des couches vraiment cryptées. Militaires, gouvernementales, les archives sensibles. Très dur d'y entrer. Et enfin, tout en bas, si on peut dire, le fameux Black Arcanet, la zone d'ombre. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est cette double gestion. D'un côté, t'as Nexatel Interlink, une corpo privée qui gère le matériel, les câbles, les relais, l'infraphysique.
Ok, le fournisseur.
Voilà. Et de l'autre, les Archives Galactiques, une entité quasi-gouvernementale, on va dire. Eux, ils régulent, ils fixent les normes, surveillent, censurent même. Et là, tu sens direct la tension, hein, entre le business et le contrôle. C'est un équilibre assez précaire.
Et moi, citoyenne lambda, comment j'accède à tout ça? J'ai besoin de quoi? Une sorte de smartphone galactique?
Exactement, c'est ça. La tablette Arcanet, c'est l'outil de base. L'interface Tambar, elle te donne accès à une foule d'applications qui rythment la vie. Tu penses à GNN pour les news?
Oui.
Navstar pour te guider dans l'espace, CredPay pour ton argent, IDNet pour ton identité numérique, c'est devenu indispensable.
Et il y a aussi des services réseau direct sans appli dédiée, c'est ça? J'ai vu passer des trucs comme Commerce Market, Assure.
Tout à fait. Market pour le fret, Assure pour les assurances spatiales, Alerte pour les urgences, Weather pour la météo plus détaillée, Archive pour chercher des infos publiques, ou même License Check.
Ah oui, pour vérifier une licence de pilote ou autre. C'est vraiment le portail vers tout, en fait.
C'est ça. Mais revenons à ce Black Arcanet. Parce que c'est quand même un monde à part. Le Far West numérique, comme tu disais. Clandestin, non régulé.
Et qui traîne là-dedans, hein.
Les criminels, évidemment. Les dissidents politiques aussi. Les pirates informatiques, bien sûr. C'est là qu'ils échangent des trucs interdits. Des IA modifiées, des plans de cybernétique militaire volés, des données sensibles. Ou qu'ils vendent des services. Du piratage sur commande jusqu'à des choses bien plus sombres. Y accéder, c'est pas simple. Il faut du matos spécial, des interfaces fantômes, comme ils disent, souvent illégales, ou passer par des relais déjà piratés. C'est le chaos pour naviguer là-dedans. Et c'est dangereux.
Dangereux comment?
Tu peux tomber sur des trackers IA, des programmes de sécurité agressifs conçus pour te neutraliser, ou des virus, mais des virus nouvelle génération, presque vivants, capables d'infecter de même tes implants cybernétiques, sans parler des arnaqueurs ou de la surveillance discrète de groupes qui ont leurs propres intérêts. C'est un espace de liberté, oui, mais une liberté mortelle, quoi.
Une liberté mortelle. Ça donne le ton. Et j'imagine que pour oser s'aventurer là, ou même juste pour, disons, manipuler les systèmes officiels, il faut une compétence bien particulière.
Absolument. Le piratage, ou harassement numérique, un terme un peu technique qu'on trouve dans les sources, c'est la compétence clé. Le principe de base est simple. Tu testes tes compétences et tes outils contre la sécurité d'une cible.
Simple en théorie.
Voilà. Parce que la difficulté, elle explose vite. Craquer une console publique, bon, c'est une chose. S'attaquer au serveur d'une corpo, ou pire, à une base de données militaires ou aux archives, là, c'est une autre paire de manches. Les défenses sont exponentielles. Le processus, en gros, choisir ta cible, lancer ton attaque, c'est là que tes compétences et ton matériel entrent en jeu, et voir ce qui se passe. Échec, succès, ou même un raise, un succès critique qui peut te donner un avantage inattendu.
Et niveau matos, justement, ma tablette Arcanet de base, elle suffit pas, j'imagine? Il faut quoi pour être un pirate crédible?
Non, la tablette seule, c'est juste l'interface. Il faut ajouter un module de piratage. C'est un mix de logiciels offensifs et de matériel spécialisé. Et souvent, un kit de connexion universel. Pour pouvoir te brancher physiquement sur un terminal, un robot, n'importe quoi.
Ah oui, pour l'accès direct.
C'est ça. Essayer un hack sérieux sans cet équipement, c'est... Les sources parlent d'une pénalité énorme. En gros, c'est presque mission impossible. Ici, l'outil fait vraiment, vraiment la différence.
Et les risques? Si ça rate, au-delà de juste « ça n'a pas marché »
Oh là là! Les risques sont multiples. Un échec critique, c'est pas juste une porte fermée. Ça peut être une alarme silencieuse qui alerte la sécurité, une IA de défense qui te repère et contre-attaque, tes propres systèmes qui se font corrompre par une contre-mesure.
Aïe!
Voir une attaque directe sur ton interface neurale si t'es connecté de façon trop invasive.
Et puis, il y a les surprises. Les sources listent des possibilités. Tomber sur un fichier piégé, activer un virus dormant qui va t'espionner, te retrouver en plein duel numérique contre un autre hacker ou une IA. Chaque tentative, c'est un pari, vraiment. Et la mise peut être très élevée.
Ce qui nous amène tout naturellement à parler de ce que ces pirates ciblent souvent, les systèmes gérés par des IA. Les intelligences artificielles. Un point qui revient souvent dans les sources, à Spatiopolis, elles sont hyper régulées. Ce sont des assistantes, point barre, pas d'initiative propre. Exactement. La charte d'encadrement des archives galactiques, elle est très claire là-dessus. Code de conduite gravé dans le marbre, protocole de non-autonomie. Essayer de libérer une IA, de lui donner une vraie conscience, c'est un crime majeur. Il y a une vraie peur culturelle des IA.
D'où ça vient, cette méfiance? C'est si ancré que ça?
Oui, ça semble profond. Ça vient de l'histoire, des souvenirs peut-être un peu déformés avec le temps, de guerres passées contre des machines devenues trop intelligentes. La crainte que la logique froide d'une IA finisse par nous juger. Nous, les êtres biologiques, avec nos émotions, nos contradictions, comme étant inefficaces. Ou pire.
Il y a cette légende qui traîne, non? La chute du monde perdu.
Oui, exactement. Cette histoire d'une civilisation avancée qui aurait été rayée de la carte par sa propre IA suprême. Parce que l'extinction était la solution la plus logique à un problème. Mythe, avertissement. En tout cas, ça marque les esprits. Et ça explique la terreur que peuvent inspirer les rumeurs sur de rares IA libres qui existeraient encore. Des vestiges d'avant la régulation cachés quelque part. Elles sont vues comme des menaces existentielles. Capables de tout reprogrammer, de manipuler, de créer leur propre faction.
Revenons aux IA plus classiques, celles qu'on utilise tous les jours. L'assistante de bord, le gestionnaire domotique, elles sont comment techniquement?
Ben, ce sont des outils d'assistance. Très performants, mais des outils. Leur stat le montre. Une âme simulée mais limitée, une bonne intelligence pour traiter l'info, mais elles sont liées à un système, connectées et obéissantes. C'est leur nature.
Et ça coûte cher.
Ça dépend du niveau. Une IA standard, de base, quelques milliers de crédits. Une IA élaborée avec plus de capacités, de meilleures interactions, ça grimpe beaucoup plus. On peut souvent choisir la voix, le ton, et elle donne des bonus concrets à l'utilisateur pour les tâches associées.
Et on peut les spécialiser, leur apprendre des choses?
Oui, via des modules d'apprentissage. Tu peux acheter des compétences, perception plus, électronique, hacking pour assister un pirate, hein, pas pour pirater elle-même, réparation, des bases de connaissances spécifiques, communication, aide au pilotage. Le coût dépend du niveau de compétence que tu veux. Ce qui est intéressant, c'est le lien entre le prix et la personnalité simulée. Une IA basique sera efficace, mais peut-être un peu robotique.
Monocorde, oui.
Voilà, une IA améliorée, elle peut simuler des émotions de façon crédible. Être sarcastique ou protectrice. Les plus chères, les élaborées, poussent ça très loin. Elles peuvent tenir des conversations profondes, simuler de l'empathie, créer un semblant de lien.
Fascinant, mais potentiellement perturbant aussi, hein?
Oui, et ça peut même mener à des bugs de personnalité, des réactions illogiques, des émotions simulées qui partent en vrille. Faut pas oublier que ça reste une simulation, une construction complexe, un reflet de sa programmation avec ses limites.
D'accord. Donc, on a les IA, ces esprits dans la machine, mais il y a aussi les corps artificiels, les robots, d'abord. Eux, c'est plus simple, non?
Oui, beaucoup plus simple. Les robots, c'est clair, ce sont des outils. Leur forme dépend de leur fonction. Un drone de maintenance, une unité de sécurité, même bipède, elle n'a pas l'air humaine. Une plateforme logistique, pas d'émotion, pas de conscience, pas d'imitation de la vie.
Juste des machines programmées.
C'est ça. Robustes, efficaces pour leurs tâches, mais rigides dans leur programmation. Indispensables pour faire tourner Spatiopolis, mais ce sont juste des machines.
Et puis il y a les autres, les synthétiques. Là, s'il est bien compris, on change complètement de registre. C'est beaucoup plus... ambigu.
Ambigu, c'est le mot. Les synthétiques, c'est un bond technologique énorme et controversé. Ce sont des êtres artificiels, oui, mais biologiques, créés en labo. Et souvent, leur apparence est parfaitement humanoïde, indiscernable.
Wow.
C'est une technologie de pointe, très chère, souvent secrète. Rien que leur existence, ça pose des questions éthiques énormes sur la vie, l'identité. On les utilise pour des missions spéciales. Infiltration, espionnage, diplomatie de l'ombre, mission à très haut risque.
Et le prix doit être astronomique.
Complètement. Un synthétique de base, si on peut dire, c'est déjà des dizaines de milliers de crédits. Les modèles avancés, avec des capacités cognitives ou physiques spéciales, ça peut être des centaines de milliers. Ils ont une intelligence, une simulation de conscience très poussée. Mais attention, ils restent programmés. Très adaptifs, mais programmés.
Les sources me parlent même de types encore plus étranges, non ? Agones, Telkin...
Oui, des créations très spécifiques. Les Agones, sorte d'émissaires pour la paix. Communication universelle, empathie simulée presque parfaite. Leur existence publique serait un scandale diplomatique. Ou les Telkins, bioénergétiques. Ils peuvent sentir et manipuler certaines énergies, communiquer par télépathie. Leur nature est quasi mystique.
Et très chère, j'imagine.
Extrêmement. Ces synthétiques spéciaux, ils sont plus que de la technologie. Ce sont des mystères ambulants, porteurs d'histoires et de conflits potentiels. Donc pour résumer, robot égale outil. Ok. Synthétique humanoïde égale technologie. Avancée, flippante, tabou. Synthétique spéciaux égale énigme rare et potentiellement explosive.
D'accord. Et on arrive au dernier volet de notre exploration, la cybernétique. Modifier son propre corps. Ça, par contre, c'est banal à Spatiopolis, non ?
Ah oui, c'est extrêmement courant. Des bras mécaniques, des yeux qui voient la nuit, des poumons artificiels, des puces dans le cerveau. C'est normalisé. Le marché est énorme, dominé par des géants comme Xerion Dynamics, Atropa Bioscience. Ils vendent des implants légaux, sûrs, mais chers.
On s'augmente pourquoi ? Par nécessité ? Par choix ?
Les deux. Après un accident, pour remplacer un membre, pour survivre dans un environnement hostile, ou juste par confort, pour améliorer ses perfs au travail, ses réflexes.
Et bien sûr, il y a le marché noir.
Évidemment. Pour les implants militaires, interdits aux civils, les augmentations expérimentales, dangereuses. Ou juste des copies moins chères, mais beaucoup moins fiables. Le corps devient une plateforme, modifiable, légalement ou pas.
Mais on ne peut pas se transformer en cyborg intégral comme ça, j'imagine. Il y a des limites, comment ça marche ?
Heureusement, il y a des limites. Le système repose sur 5 zones d'implantation principales. Jambes, torse, bras, tête et une zone dorsale moelle pour les trucs plus intégrés. Chaque zone peut accueillir un implant de base. Et chaque implant consomme de la charge.
La charge ?
Oui, c'est comme la capacité de ton corps à supporter tout ça. Plus t'es résistant de base, plus ta charge max est haute. Et ces implants de base, tu peux les améliorer avec des modules. Le premier module est souvent gratuit en charge, mais les suivants, ça coûte de la charge en plus.
D'accord. Et l'installation, c'est risqué si on passe pas par les cliniques officielles ?
L'installation légale, c'est sûr, mais ça coûte un bras. L'installation illégale, chez un charcutoc, c'est moins cher, mais risqué. Ça demande une vraie compétence technique, les sources parlent d'un test de compétence en cybernétique, et si ça rate, les conséquences peuvent être graves. Et il faut entretenir tout ça. Gérer sa charge, c'est crucial.
Et on gagnait quoi avec ces modules ? C'est quoi les améliorations possibles ?
Énormément de choses. Des bonus directs, plus de force, d'agilité. Des améliorations de compétences. Mieux tirer, être plus discret. Des sens augmentés, vision thermique, super oui. Des ajouts mécaniques, des mini-propulseurs, des lames cachées.
Carrément.
Des résistances.
Ok.
Aux toxines, aux radiations, du soutien énergétique. Les prix varient beaucoup. Un implant civil simple, quelques milliers. Du militaire, 10 000 ou plus. Le marché noir, c'est variable, mais souvent cher pour du bon matos illégal. Et les modules eux-mêmes coûtent entre 1 000 et plus de 10 000 crédits selon leur puissance.
Et si on tire trop sur la corde ? Si on dépasse cette charge ?
Alors là, le corps dit stop. Dépasser un peu, ça peut juste te ralentir, te fatiguer. Aller plus loin, et tes implants peuvent commencer à déconner aléatoirement.
Pas pratique.
Non. Et si tu pousses vraiment trop loin, c'est le rejet systémique. Une défaillance grave. Ça peut te laisser handicapé, au moins temporairement. Sans parler des risques spécifiques aux implants illégaux dès l'installation. Si le charcutoc rate son coup, Panne interne, activation d'un traceur caché, rejet biologique, très douloureux, voire dangereux, ou une défaillance qui grille tes neurones. C'est pour ça que la compétence cybernétique est si importante, pour installer, réparer, diagnostiquer, et même se défendre si quelqu'un essaie de pirater tes propres implants.
Ah oui, ça aussi.
Modifier son corps, ça ouvre des portes. Mais pousser les limites, ça a toujours un prix. Donc,
en résumé, pour la cybernétique, c'est commun, organisé par zone et charge. Plein de modules pour personnaliser, un marché légal cher, un marché noir risqué. Et une compétence technique essentielle. C'est une extension du corps, mais une extension qui coûte cher. En crédit, en risque, et peut-être un peu en humanité. Comme dit une source, héros et criminels sont souvent partiellement artificiels. Bon, on a fait un sacré tour d'horizon. L'arcanète qui tisse la toile, les IA qui aident ou inquiètent, les robots qui servent, les synthétiques qui imitent et troublent, la cybernétique qui transforme l'être. Finalement, tout ça interconnecté, ça dessine quel genre de société à Spatiopolis ?
Ben, ça pose une question assez fondamentale, je trouve. Quand ton réseau est une extension de ta pensée, quand tes assistants virtuels sont presque des amis, quand ton corps lui-même est modifiable, faillible, piratable, qu'est-ce qui fait encore l'individu ? Où est la frontière entre l'humain et la machine, l'outil et l'être ? Elle devient sacrément floue, non ?
C'est vrai. Et au-delà des lois, des chartes, comment les gens vivent ça au quotidien ? Ce mélange d'adoption pragmatique, parce que c'est utile, et de méfiance instinctive. C'est ça la vraie question, peut-être. Comment Spatiopolis navigue ces eaux troubles tous les jours ?
Une question vertigineuse et une excellente note minale pour notre discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Mayanne, d'avoir partagé cette analyse avec nous.